Chapitre 19. Dans lequel le capitaine Servadac est reconnu gouverneur général de Gallia à l'unanimité des voix, y compris la sienne. Les Espagnols venus à bord de la Hansa étaient au nombre de 10, en comptant un jeune garçon de 12 ans, nommé Pablo, sauvé avec eux. Ils firent un respectueux accueil à celui que Ben Zouf leur avait annoncé comme le gouverneur général de la province, et après son départ de la clairière, ils reprirent leurs travaux. Pendant ce temps, le capitaine Servadac et ses compagnons, suivis à distance respectueuse par Isaac Hakkabut, se dirigeaient vers la partie du littoral à laquelle avait atterri la Hansa. La situation était bien connue désormais. De l'ancienne terre, il ne restait que l'île Gourbie, plus 4 îlots. Gibraltar, occupé par les Anglais, Ceuta, abandonné par les Espagnols, Maddalena, où la petite Italienne avait été recueillie, et le tombeau de Saint-Louis, sur la rive tunisienne. Autour de ces points respectés s'étendait la mer Gallienne, comprenant environ la moitié de l'ancienne Méditerranée, et à laquelle des falaises rocheuses, de substance et d'origine inconnue, faisaient un cadre infranchissable. Deux de ces points seulement étaient habités, le rocher de Gibraltar, qu'occupaient 13 Anglais, approvisionné pour de longues années encore, et l'île Gourbie, comptant 22 habitants, qu'elle devait nourrir de ses seules productions. Peut-être existait-il en outre, sur quelque îlot ignoré, un dernier survivant de l'ancienne terre, le mystérieux auteur des notices recueillies pendant le voyage de la Dobrina. C'était donc une population de 36 âmes que possédait le nouvel astéroïde. En admettant que tout ce petit monde fût un jour réuni sur l'île Gourbie, cette île, avec ses 350 hectares de bon sol actuellement cultivés, bien aménagés, bien ensemencés, pouvait amplement lui suffire. Toute la question se réduisait à savoir vers quelle époque le dit sol redeviendrait productif. En d'autres termes, après quel laps de temps Gallia, délivrée des froids de l'espace sidéral, recouvrerait en se rapprochant du soleil sa puissance végétative. Deux problèmes s'offraient donc à l'esprit des Galliens. Premièrement, leur astre suivait-il une courbe qui dut les ramener un jour vers le centre de lumière, c'est-à-dire une courbe elliptique? Deuxièmement, si telle était cette courbe, quelle était sa valeur, c'est-à-dire dans quel temps Gallia, ayant franchi son point aphélie, reviendrait-elle vers le soleil? Malheureusement, dans les circonstances actuelles, les Galliens, dépourvus de tout moyen d'observation, ne pouvait en aucune façon résoudre ces problèmes. Il faudrait donc compter seulement sur les ressources présentement acquises, à savoir les provisions de la Dobrina, sucre, vin, eau-de-vie, conserve, etc., qui pouvaient durer 2 mois et dont le compte Timachef faisait abandon au profit de tous. L'importante cargaison de la Hansa, qu'Isaac Hakkabut serait forcé, tôt ou tard, soit de bonne, soit de mauvaise grâce, de livrer à la consommation générale, et enfin les produits végétaux et animaux de l'île, qui, convenablement ménagés, assureraient à la population sa nourriture pendant de longues années. Le capitaine Servadac, le comte Timachef, le lieutenant Prokop et Ben Zouf causaient naturellement de ces importantes choses en se dirigeant vers la mer. Et tout d'abord, le comte Timachef, s'adressant à l'officier d'état-major, lui dit « Capitaine, vous avez été présenté à ces braves gens comme gouverneur de l'île, et je pense que vous devez conserver cette situation. Vous êtes français, nous sommes ici sur ce qui reste d'une colonie française, et puisqu'à toute réunion d'hommes il faut un chef, moi et les miens, nous vous reconnaîtrons comme tel. » « Ma foi, monsieur le comte, répondit sans hésiter le capitaine Servadac, j'accepte la situation, et avec elle toute la responsabilité qu'elle impose. Laissez-moi croire, d'ailleurs, que nous nous entendrons parfaitement et que nous ferons de notre mieux dans l'intérêt commun. » Mordieu, il me semble que le plus difficile est fait, et je compte bien que nous saurons nous tirer d'affaire si nous sommes à jamais séparés de nos semblables. » Ce disant, Hector Servadac tendit la main au comte Timachef. Celui-ci la prit et inclina légèrement la tête. C'était la première poignée de main qu'eussent échangée ces deux hommes, depuis qu'ils s'étaient retrouvés en face l'un de l'autre. D'ailleurs, aucune allusion quelconque à leur rivalité passée n'avait été et ne devait jamais être faite. « Avant tout, dit le capitaine Servadac, il est une question assez importante à résoudre. Devons-nous faire connaître, telle qu'elle est, la situation à ces Espagnols ?»« Ah, mais non, mon gouverneur !» répondit vivement Benzouf, qui partit comme un mousquet. « Ces gens-là sont déjà assez mollasses de leur naturel. S'ils venaient à savoir ce qui en est, ils se désespéreraient et on n'en pourrait plus rien faire. » « D'ailleurs, ajouta le lieutenant Procope, ils sont fort ignorants, j'imagine, et je pense qu'ils ne comprendraient absolument rien à tout ce qu'on pourrait leur dire du point de vue cosmographique. »« Bah, reprit le capitaine Servadac, s'ils comprenaient, cela ne les tracasserait guère. Les Espagnols sont des êtres tant soit peu fatalistes, comme le sont les Orientaux, et ceux-là ne sont point gens à s'impressionner outre mesure. » Un air de guitare, un peu de fandango et des castagnettes, et ils n'y songeront plus. Qu'en pensez-vous, comte Timachef ? Je pense, répondit le comte Timachef, qu'il vaut mieux dire la vérité, ainsi que je l'ai dit à mes compagnons de la Dobrina. C'est aussi mon avis, reprit le capitaine Servadac, et je ne crois pas que nous devions cacher la situation à ceux qui doivent en partager les dangers. Si ignorants que soient probablement ces Espagnols, ils ont nécessairement observé certaines modifications apportées aux phénomènes physiques, tels que le raccourcissement des jours, le changement de la marche du soleil, la diminution de la pesanteur. Donc, apprenons-leur qu'ils sont maintenant entraînés dans l'espace et loin de la Terre, dont il ne reste plus que cette île. « Eh bien, voilà qui est convenu, » répondit Benzouf. « Disons tout, pas de cachotterie. Mais je veux me payer la vue d'Isaac quand il apprendra qu'il se trouve à quelques centaines de millions de lieues de son vieux globe, où un usurier de sa trempe a dû laisser plus d'un débiteur. Cours après, mon bonhomme !» Isaac Hakkabut était à 50 pas en arrière, et par conséquent, il ne pouvait rien entendre de ce qui se disait. Il marchait, à demi courbé, geignant, implorant tous les dieux à la fois, mais par instant, ses deux petits yeux vifs lançaient des éclairs, et ses lèvres se serraient jusqu'à réduire sa bouche à n'être plus qu'un étroit rictus. Lui aussi avait bien observé les nouveaux phénomènes physiques, et plus d'une fois il s'était entretenu à ce sujet avec Benzouf, qu'il cherchait à amadouer. Mais Benzouf professait pour lui une antipathie visible. Il n'avait donc répondu que par des plaisanteries aux instances d'Hakkabut. Ainsi, il lui répétait qu'un être de sa sorte avait tout à gagner au système actuel, qu'au lieu de vivre 100 ans, comme le fait tout fils d'Israël qui se respecte, il en vivrait 200 au moins, mais que, vu la diminution du poids de toute chose à la surface de la terre, le fardeau de ses vieilles années ne lui paraîtrait pas trop lourd. Il ajoutait que, si la lune s'était envolée, cela devait être indifférent à un avare de sa trempe, attendu qu'il n'était pas probable qu'il eût prêté dessus. Il lui affirmait que si le soleil se couchait du côté où il avait l'habitude de se lever, c'est que probablement on lui avait changé son lit de place. Enfin, 1000 balivernes de ce genre. Et quand Isaac Hakkabut le pressait davantage, « Attends le gouverneur général, vieux » répondait-il invariablement. « C'est un malin, il t'expliquera tout cela. » « Et il protégera mes marchandises ?» « Comment donc, Neftali ? Il te les confisquerait plutôt que de les laisser piller. » Et c'était sous le bénéfice de ces peu consolantes réponses que le Juif, auquel Benzouf prodiguait successivement toutes sortes de noms israélites, guettait chaque jour l'arrivée du gouverneur. Cependant, Hector Servadac et ses compagnons étaient arrivés au littoral. Là, vers la moitié de l'hypoténuse que formait ce côté de l'île, était mouillée la Hansa. insuffisamment garantie par quelques roches, très exposée dans cette situation, un vent d'ouest un peu fort risquait certainement de mettre cette tartane à la côte, où elle se démolirait en quelques instants. Évidemment, elle ne pouvait rester à ce mouillage, et il faudrait plus tôt que tard la conduire à l'embouchure du Chélif, près de la goélette russe. En revoyant sa tartane, Isaac recommença la série de ses doléances, avec tant de cris et de grimaces que le capitaine Servadac dut lui enjoindre de se taire. Puis, laissant le comte Timachev et Ben Zoof sur le rivage, le lieutenant Procope et lui s'embarquèrent dans le canot de la Hansa et accostèrent la boutique flottante. La tartane était en parfait état, et par conséquent, sa cargaison ne devait avoir aucunement souffert. C'est ce qu'il fut facile de constater. Il y avait là dans la cale de la Hansa des pains de sucre par centaines, des caisses de thé, des sacs de café, des boucaux de tabac, des pipes d'eau-de-vie, des tonneaux de vin, des barils de hareng sec, des rouleaux d'étoffe, des pièces de coton, des vêtements de laine, un assortiment de bottes à tous pieds et de bonnets à toute tête, des outils, des ustensiles de ménage, des articles de faïencerie et de poterie, des rames de papier, des bouteilles d'encre, des paquets d'allumettes, des centaines de kilos de sel, de poivre et d'autres condiments, un stock de gros fromages de Hollande et jusqu'à une collection d'almanachs du double liégeois, le tout atteignant une valeur de plus de 100 000 francs. La tartane, quelques jours avant la catastrophe, avait précisément renouvelé sa cargaison à Marseille, dans le but de l'écouler depuis Ceuta jusqu'à la régence de Tripoli, c'est-à-dire partout où Isaac Acabut, Retor et Madré trouvaient à faire des marchés d'or. « Une riche mine pour nous que cette superbe cargaison !» dit le capitaine Servadac. « Si le propriétaire la laisse exploiter !» répondit le lieutenant Procope en hochant la tête. « Eh, lieutenant, que voulez-vous qu'Isaac fasse de ses richesses ? Lorsqu'il saura qu'il n'y a plus ni Marocains, ni Français, ni Arabes à rançonner, il faudra bien qu'il s'exécute. » « Je n'en sais rien, mais en tout cas, il voudra être payé de sa marchandise quand même. » « Eh bien, nous le payerons, lieutenant, nous le payerons en traite sur notre ancien monde. » « Après tout, capitaine, reprit le lieutenant Procope, vous aurez bien le droit d'exercer des réquisitions. » « Non, lieutenant, précisément parce que cet homme est allemand, j'aime mieux agir avec lui d'une façon moins allemande. D'ailleurs, je vous le répète, bientôt il aura plus besoin de nous que nous n'aurons besoin de lui. Lorsqu'il saura qu'il est sur un nouveau globe et probablement sans espoir de retour à l'ancien, il fera meilleur marché de ses richesses. Quoi qu'il en soit, répondit le lieutenant Procope, on ne peut laisser la tartane à ce mouillage. Elle s'y perdrait au premier mauvais temps, et même elle ne résisterait pas à la pression des glaces lorsque la mer se congèlera, ce qui ne saurait tarder beaucoup. Bien, lieutenant, vous et votre équipage, vous la conduirez au port du Chélif. Dès demain, capitaine, répondit le lieutenant Procope, car le temps presse. L'inventaire de la Hansa était terminé, le capitaine Servadac et le lieutenant débarquèrent. Il fut alors convenu que toute la petite colonie se réunirait au poste du Gourbi et qu'en passant, on prendrait les Espagnols. Isaac Acabut fut invité à suivre le gouverneur et il obéit, non sans jeter un regard craintif sur sa tartane. Une heure après, les 22 habitants de l'île étaient réunis dans une grande chambre du poste. Là, pour la première fois, le jeune Pablo faisait connaissance avec la petite Nina, qui parut très contente de trouver en lui un compagnon de son âge. Le capitaine Servadac prit la parole et il dit, de manière à être compris du juif et des Espagnols, qu'il allait leur faire connaître la situation grave dans laquelle ils se trouvaient. Il ajouta d'ailleurs qu'ils comptaient sur leur dévouement, sur leur courage, et que tous maintenant devaient travailler dans l'intérêt commun. Les Espagnols écoutaient tranquillement et ne pouvaient répondre, ignorant encore ce qu'on attendait d'eux. Cependant, Negrete crut devoir faire une observation en s'adressant au capitaine Servadac. « Monsieur le gouverneur, dit-il, mes compagnons et moi, avant de nous engager, nous voudrions savoir à quelle époque il vous sera possible de nous reconduire en Espagne. » « Les reconduire en Espagne, monsieur le gouverneur général ! » s'écria Isaac en bon français. « Non, tant qu'ils n'auront pas payé leurs dettes. Ces coquins m'ont promis 20 réaux par personne pour leur passage à bord de la Hansa. Ils sont 10, c'est donc 200 réaux qu'ils me doivent, et j'en prends à témoin. « Te tairas-tu, Mardoqué ? » cria Ben Zouf. « Vous serez payé, » dit le capitaine Servadac. « Et ce ne sera que justice, » répondit Isaac Hakkabut. « À chacun son salaire, et si le seigneur russe veut me prêter 2 ou 3 de ses matelots pour conduire ma tartane à Alger, à mon tour je les payerai, oui, je les payerai, pourvu qu'il ne me demande pas trop cher. » « Alger !» s'écria de nouveau Ben Zouf, qui ne pouvait se contenir. « Mais sache donc, laisse-moi apprendre à ces braves gens, Ben Zouf, ce qu'ils ignorent, » dit le capitaine Servadac. Puis, reprenant en espagnol, « Écoutez-moi, mes amis, dit-il. Un phénomène que nous n'avons pu expliquer jusqu'ici nous a séparés de l'Espagne, de l'Italie, de la France, en un mot de toute l'Europe. Des autres continents, il ne reste rien que cette île où vous avez trouvé refuge. Nous ne sommes plus sur la terre, mais vraisemblablement sur un fragment du globe qui nous emporte avec lui, et il est impossible de prévoir si nous reverrons jamais notre ancien monde. » Les Espagnols avaient-ils compris l'explication donnée par le capitaine Servadac ? C'était au moins douteux. Cependant, Negrete le pria de répéter ce qu'il venait de dire. Hector Servadac le fit de son mieux, et, employant des images familières à ces Espagnols ignorants, il réussit à leur faire comprendre la situation telle qu'elle était. Quoi qu'il en soit, à la suite d'un court entretien que Negrete et ses compagnons eurent entre eux, ils semblèrent tous prendre la chose avec une parfaite insouciance. Quant à Isaac Hakkabut, après avoir entendu le capitaine Servadac, il ne prononça pas un mot, mais ses lèvres se pincèrent comme s'il eût voulu dissimuler un sourire. Hector Servadac, se retournant alors, lui demanda si, après ce qu'il venait d'entendre, il songeait encore à reprendre la mer et à conduire sa tartane au port d'Alger, dont il n'existait plus un vestige. Isaac Hakkabut sourit cette fois, mais cependant de manière à n'être point vu des Espagnols. Puis, s'adressant en russe pour être compris seulement du comte Timachev et de ses hommes, « Tout ça, ce n'est pas vrai, dit-il, et son Excellence le gouverneur général veut rire. » Sur quoi le comte Timachev lui tourna le dos. Isaac Hakkabut, revenant alors au capitaine Servadac, lui dit en français, « Ces comtes-là sont bons pour des Espagnols, ça les tiendra, mais pour moi, c'est autre chose. » Puis, s'approchant de la petite Nina, il ajouta en italien « N'est-ce pas que tout cela n'est pas vrai, petiote ?» Et il quitta le poste en haussant les épaules. « Ah ça, il sait donc toutes les langues, cet animal ?» dit Ben Zouf. « Oui, Ben Zouf, répondit le capitaine Servadac, « mais qu'il s'exprime en français, en russe, en espagnol, en italien ou en allemand, c'est toujours d'argent qu'il parle. »